Des mots et débats.
Bonjour à toutes et à tous, le mois de novembre s'achève, emportant avec lui le doux parfum des citrouilles, des feuilles mortes et des journées de soldes commerciales abusives stimulant la surexploitation de nos ressources limitées. Il est donc grand temps de nous retrouver pour parler littérature. En effet, dans Des mots et débats, nous analysons les livres que vous nous proposez. Continuez donc à envoyer des listes à podcastdmed@gmail.com car vous êtes le moteur de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le programme, je pense, le plus éclectique de l'histoire du podcast, mais on va peut-être quand même trouver un lien non seulement entre les livres et avec l'actualité, puisque nous allons parler des chants de Nezahualcóyotl, et désolé pour la prononciation de ce nom que nous allons écorcher tout au long du podcast, je pense. Nous allons aussi parler des confessions du Nacro-Shopping de Sophie Kinsella et de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Et pour parler de tout ça, j'accueille un vieux de la vieille, un ancien, un pilier de comptoir. Bonjour Martin.
Salut.
Quel est ton mot ?
Alors moi, quand j'ai appris qu'on allait lire un livre précolombien, en fait, j'ai mal compris, j'ai entendu précolombin, alors je me dis mince, précolombin, ça veut dire avant d'aller aux toilettes, mais quelle étrange rumeur. Je vais prendre le mot colombin. Mm-hmm. Colombin, relatif à la colombe aux pigeons, ou pigeons sauvages d'Europe et d'Asie, ou rouleau de pâte servant à confectionner des poteries, ou étron.
D'accord, merci Martin pour ce mot riche en signification.
De rien.
Et nous accueillons aussi une nouvelle, bonjour Cerise.
Bonjour.
Quel est ton mot ?
Positiver, présenter, envisager quelque chose sous un angle positif, constructif, faire preuve d'optimisme.
Très bien. Et mon mot est le mot solde, et non pas la solde, le mot féminin qui désigne le salaire d'un soldat. D'ailleurs, le mot soldat vient de là, mais le mot solde au masculin, qui au pluriel donne les soldes, cette période où les boutiques mettent au rabais leurs marchandises. Le solde était à l'origine le bout d'étoffe restant chez les marchands et c'est devenu l'ensemble des marchandises vendues au rabais. On dira donc que les soldes sont aberrants dans un contexte de changement climatique et non pas aberrantes. Et nous pouvons donc passer maintenant aux critiques.
800 pages de trop.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
15 chapitres pour rire.
C'est extra. C'est extra.
Et nous commençons les critiques avec les chants de Nezahualcóyotl que Martin a la lourde tâche de nous présenter.
Sur cette terre à nous prêter de Nezahualcóyotl, qui a vécu entre 1402 et 1472. Donc, je sais pas s'il y avait une date, mais j'ai pris toutes ces dates. Voilà. Alors déjà, merci à l'auditeur ou l'auditrice qui nous a permis de découvrir cette pépite précolombienne. On n'a pas souvent l'occasion de lire des poèmes. Enfin, sauf moi qui suis accro, faut l'admettre. Mais des poèmes précolombiens, alors ça...
ça merci. Pas les quatre mètres,
Merci beaucoup et va mourir. En préambule, j'aimerais vous expliquer un élément de langage qui aura peut-être échappé à mes comparses dans ce recueil Nezahualcóyotl, que j'appellerai YOLO à partir de maintenant, parce qu'il s'appelle par le nom d'animal qu'il veut quand il le veut, le paon, la panthère, la loutre, le guépard, la murène, le renard, rayez les mentions inutiles, et que globalement il en a un peu rien à foutre des autres, vous le verrez, utilise le mot fleur. Il peut désigner trois choses, une fleur, classique, de la drogue, quelque peu excentrique, ou une femme, et c'est là que ça devient problématique. Si je dois vous résumer le recueil en quelques étapes, numéro 1. YOLO est en paix avec les autres clans, c'est le chef du sien, mais il s'emmerde. Partie 2. YOLO kidnappe une mineure d'un autre clan, je le renommerai donc Luc Besson.
C'est pas prouvé.
Numéro 3.
Pour YOLO.
Luc a envie de niquer, mais on va l'attaquer. Du coup, il fait une grosse teuf slash orgie slash séance de viol. C'est bon esprit, je vais l'appeler Roman Bolanski. Numéro 4. Roman est deg car il ne peut pas aller au combat. Mais il force ses potes. Il va garder les femmes, tout va bien se passer. Numéro 5. Roman en profite, évidemment. Mais là, patatras. Son gars sûr meurt au combat. Du coup, numéro 6, grosse déprime, là. Ça va pas du tout. Roman se drogue. J'appellerai donc Kurt Cobain. Numéro 7, Kurt a des grosses alus et creuse sa propre tombe. C'est chaud. Numéro 8, Kurt meurt. Probablement dans son vomi.
C'est à peu près ça, hein. C'est une bonne, un beau résumé de ces chants précolombiens. Mais tu nous as pas dit ce que tu en avais pensé, Martin.
C'était bien. Et vous?
Ça t'a vraiment plu?
Non.
Pourquoi?
Bah écoutez, déjà, le simple fait de lire des poèmes, c'est pas nécessairement ma cam, mais c'est vrai que là, la connexion... Enfin, bon, allez, j'exagère un petit peu. Il y a une thématique qui est très intéressante, c'est la thématique de son rapport à Dieu, dont j'ai absolument pas parlé dans mon résumé, et de sa remise en cause, finalement, de pourquoi il fait ça, de la fin du monde et de sa vie imminente. Et quand on sait qu'il a vécu à peu près toute sa vie à sacrifier 8 milliards de vierges, on se dit que il espérait vraiment que quelque chose se passe à la fin. Alors, bon, spoiler, je pense qu'il s'est rien passé, mais ça, c'est que mon avis. En tout cas, aussi, je pense que ce côté-là est intéressant et son rapport à cette problématique est intéressant. Le reste m'a pas nécessairement extrêmement touché, parce que déjà je trouve ça assez compliqué de se mettre dans ses chaussures de panthère, mais aussi parce que moi ça ne me touche pas beaucoup la poésie en tant que telle, donc non, moi j'en ai pas énormément retiré, même, je dirais que même sociologiquement et d'un point de vue civilisation, j'ai pas forcément appris grand chose, c'est pas l'objectif évidemment, mais j'ai pu apprendre bien plus en m'y intéressant d'autres manières que de cette manière-là, donc bon, voilà pour mon avis.
Cerise ?
J'avoue, je suis assez d'accord avec Martin, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, d'autant plus qu'il y a toute une préface au début du livre pour essayer de remettre dans le contexte historique, etc., qui est intéressante certes, mais qui est un peu longue, j'ai trouvé, qui donne beaucoup de détails. On se pose la question, est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose? Donc en effet, ça remet dans son contexte, mais dans un sens, ça nous perd déjà un petit peu, je trouve. Et après, oui, c'est vrai que c'est des poèmes qui sont très auto-centrés, où moi j'ai trouvé en effet qu'il y avait beaucoup de remises en question par rapport à lui, mais aussi par rapport justement à son rapport à Dieu, comme tu disais, ce qui m'a un peu étonnée, parce que finalement on a toujours l'impression que, en tout cas de mon avis, les Aztèques et compagnie ont un rapport très proche des dieux et ont un rapport, comme quoi c'était des divinités, comme quoi ils étaient vraiment à fond.
Très les vénérés.
C'est ça, d'autant plus avec tous les sacrifices. Mais à côté de ça, quand on lit le livre, on se rend vraiment compte qu'il y a... une grosse remise en question, des gros doutes, et finalement, moi, ça m'a intéressée sur le fait que, finalement, à toute époque, il y a eu des remises en question sur Dieu, sur son existence, sur pourquoi on était là, et ça, par contre, j'ai trouvé ça intéressant, mais sinon, pas très accrochant pour moi.
Oui, moi, je te rejoins sur certaines thématiques qui sont abordées dans le livre et qui m'ont vraiment surpris, moi, et celle-là en fait partie, celle de la religion, de son rapport à Dieu et à la mort aussi. C'est l'une des thématiques majeures du livre. Tu en as parlé vite fait, Martin, à travers la mort de ses amis, parce qu'évidemment, ils étaient en guerre en permanence. Et donc, il en a vu des gens mourir. Lui, il était à la fois chef politique et chef militaire. Et donc, il se questionne sur qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qui les attend après la mort. Il parle de ce monde avec beaucoup de métaphores et de périphrases. Le monde des damnés, le monde de ceux qui ne sont plus. Et il y a beaucoup de réflexions métaphysiques sur ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, qu'est-ce que notre rapport au créateur, avec presque une vision quasiment monothéiste, ce qui peut aussi
là aussi. Oui, ça c'est impressionnant.
Oui, ça m'a assez perturbé, c'est vrai.
Et tout ça fait que le livre a une certaine modernité presque. On a l'impression de lire parfois des questionnements existentiels du XXe siècle,
ouais, de certains auteurs. Sauf que le mec vit dans la nature et qui parle que de fleurs, quoi. Enfin,
oui, mais il parle de fleurs fanées, pourquoi les fleurs sont mortes, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des fleurs, enfin,
Mais je suis curieux de voir quels autres thèmes tu raccroches, parce que moi, à part cela, j'en vois pas.
Après, moi, j'ai plus pensé à la Grèce antique, avec tous les philosophes, etc., sur la remise en question constante et compagnie. Moi, j'ai plus rapproché, j'avoue, ces poèmes et ces réflexions-ci à cette période de la vie. Mais en effet, on peut les retrouver dans la période actuelle.
Bah oui, mais ce que tu dis est intéressant. C'est vrai que nous, on est, et je pense que notre surprise, et en tout cas la mienne, vient surtout aussi d'une part d'ignorance, c'est qu'on est baigné dans la civilisation gréco-romaine, qu'on a l'habitude de parler de philosophes grecs, Aristote, Platon, comme référence de la naissance de la philosophie, etc. Et donc, on est surpris, en lisant un recueil de poèmes précolombiens, de retrouver des questionnements qui, évidemment, ont traversé les âges, ont traversé les océans, et ils ne sont pas restreints à la civilisation européenne. Et pourtant, assez surpris de retrouver ces questionnements qui sont universels dans ces poèmes. Et moi, ça m'a particulièrement intéressé. Et l'autre, tu me demandais, Martin, quelle thématique de la modernité il y avait dans ce livre. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, jour de Black Friday, dans un contexte où on s'interroge un peu sur ce que vont devenir les civilisations. On a toujours cette question de l'effondrement de notre société telle qu'elle est, notamment de notre modèle de consommation. C'est une question qui parcourt de plus en plus à la fois les médias, les livres et les œuvres culturelles. Là, c'est ce qui est assez fort, c'est que ces chants ont été écrits, ou en tout cas la vie de cet homme, et on n'est même pas sûr qu'il les a tous écrits, mais ça c'est une autre question. C'est juste avant l'effondrement de sa civilisation, avec l'arrivée des Espagnols, qui les ont tous massacrés. Et il passe son temps à évoquer leur propre mortalité, le fait qu'ils ne vivront pas éternellement. D'ailleurs, c'est... qu'est-ce que tu avais lu, Martin ? C'est le titre du livre, si on lit la première phrase.
Sur cette terre à nous prêter.
Sur cette terre à nous prêter. Donc rien que ça, c'est assez fort d'un point de vue écologique, entre guillemets.
Ouais, si je peux me permettre, je pense que tu lis un peu trop de choses dans... tu fais trop de rapprochements, ce qui est tout à ton honneur. Maintenant, toutes les civilisations précolombiennes étaient extrêmement marquées par cette logique de la fin du monde. Hein.
Oui.
Moi aujourd'hui, peut-être que c'est, je vais pas dire ma connaissance étendue parce que c'est faux, mais mes bribes de connaissances qui m'ont pas surpris sur le sujet, et de là en faire un lien avec notre cas actuel, c'est extrêmement théologique leur fin du monde, alors que la nôtre, elle est extrêmement humaine. C'est là où je trouve une différence énorme entre leur époque et la nôtre. Eux, ils imaginaient pas mourir aux mains de l'homme. Là où nous, aujourd'hui, Dieu est mort, si on meurt, c'est des mains de l'homme, c'est des mains de personne d'autre.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, il y a quand même ce climat de fin de civilisation dans les deux cas.
Certes.
Et du coup, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le livre. Et ce côté, on va tous mourir, donc profitons de la vie, carpe diem, c'est quand même une façon de penser que j'aurais pas cru retrouver dans ce livre.
Enfin, ouais. Il passe par beaucoup d'émotions quand même. Profiter de la vie à un moment et on va tous mourir. Je m'ouvre les veines à un autre.
C'est ça. Ouais, c'est.
Il sait pas trop. Hein. Il a pas les réponses.
C'est quand même un livre assez triste à lire.
Oui, je comprends. Et pourtant, il fait pas mal de comparaisons avec la flore, etc. Donc ça reste quand même très poétique en effet, mais c'est vrai que c'est un peu déprimant. Je suis assez d'accord.
Moi, je pense qu'il consommait beaucoup de drogue. Hein.
Oui. Mais en même temps, quand tu vois des gens, des milliers de personnes sacrifiées devant toi régulièrement, ça doit pas être méga heureux non plus, tu vois.
Oh.
Surtout qu'il était contre. Hein. Je tiens à rectifier ce que tu as dit dans ton intro.
Il était peut-être contre, mais il a quand même
fait. Il en a fait beaucoup. Moi, j'étais pas content.
Il t'a dit, oh le mec quand même.
Pas très bien. Il disait, on est en 1500 quand même, on n'est plus en 1412.
il levait son doigt comme ça en l'air et il disait, bon, c'est la dernière.
Donc, mais oui, mais je trouve ça aussi intéressant ce qu'on disait, est-ce que c'est un livre triste ou joyeux. C'est vrai qu'il y a ce côté mélancolique tout le temps de la mort et de la fin de la vie. En même temps, il parle des fêtes, il parle de toujours essayer de se rattacher aux choses qui existent, les fleurs, les boissons, etc. Et pareil, c'est des pensées qu'on a retrouvées aussi dans beaucoup de poètes français, notamment Lapillade, Ronsard et Dubélé. Et je trouve ça, ça remonte l'universalité de l'homme, et c'est ce qui m'a le plus touché, je pense, c'est que à travers les siècles et les temps et les histoires différentes, on se pose finalement à peu près tous les mêmes questions. N'est-ce pas?
Je suis d'accord.
Oui.
Mais du coup, vous le conseillerez... Est-ce que vous le conseillez?
La vérité, c'est que moi, je l'ai pas lu tout seul et c'était très très drôle. Parce que je l'ai lu au second degré totalement et c'était marrant.
T'es pas passé à côté?
La preuve, c'est qu'on vient d'en parler et qu'on était à peu près tombés sur les mêmes thématiques. Le truc, c'est que moi, je retire un semi-étonnement et c'est à peu près tout ce que j'en retire. Parce que le médium en lui-même me déplaît particulièrement. J'aime autant lire un bon livre de philosophie dégueulasse, impossible à lire, un Nietzsche, que de lire ça. Ça me saoule. Voilà. Mais bon.
Très bien.
Je suis pas certaine. Tout simplement. Après ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, mais là comme ça je pense que c'est pas le premier livre que je conseillerais on me demande une recommandation. Après, si la personne est passionnée de poésie et compagnie, ça peut être intéressant de lui proposer pour diversifier ses points de vue et ses lectures, parce que je suis pas sûre que ce soit le premier livre auquel on pense quand on veut lire de la poésie. À côté de ça, en dehors de ce cas très précis, je suis pas sûre.
Mais c'est vrai qu'il a... Parce que moi, je l'ai même pas dit, mais j'ai plutôt bien aimé. Enfin, je crois que ça s'est senti, surtout par curiosité et intérêt. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté redondant, on va dire, entre
ça, les mais poèmes,
c'est exactement ça. Un peu tous, ils ont à peu près tous les mêmes thématiques. Disons qu'il y a deux thématiques et que ça alterne un peu entre les deux.
Les fleurs et la mort, quoi.
Exactement.
Le vocabulaire employé, c'est globalement toujours le même. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu gênée, c'est que finalement, c'est très redondant, même s'il explore plusieurs thèmes, c'est toujours plus ou moins tourné de la même façon, et donc on a un peu l'impression de lire toujours la même chose.
À propos là, si je pouvais souligner le travail dégueulasse des traducteurs, franchement, j'ai lu l'original, ça n'a rien à voir. J'aurais fait autrement. Je suis dégoûté de leur travail, aucun respect pour ce violeur d'enfants qui sacrifie des gens.
Peut-être que ta traduction qui est bientôt publiée, non?
Oui, elle sort dans un mois aux éditions Gallimard.
Très bien, c'est noté. Et j'allais dire un dernier truc. Oui, sur la redondance, je pense qu'aussi ça fait partie du côté rituel de ces chants qui était, je pense, enfin, il ne publiait pas son bouquin, son recueil de poésie qu'il a distribué à la sortie des écoles, non? Ce sont des chants qui sont en plus déjà pas tous confirmés d'être de lui. C'est des chants oraux qui sont transmis de génération en génération. Donc il y a ce côté, je pense qu'ils sont tous sur la même forme et le même fond, parce que c'est le rituel d'une certaine cérémonie et qui était inscrit dans un certain contexte. Mais c'est vrai que du coup, à la lecture, c'est plus à picorer qu'à garder un coup.
J'imaginais un mec d'Apocalypto gueuler l'un de ses poèmes du haut d'une pyramide.
C'est un peu ça.
Mais d'ailleurs, moi, je me suis dit, quand j'ai lu que c'était des chants et que c'était un peu la préface au début, il disait ce sont des chants, ça peut se faire comme une pièce de théâtre presque, comme un opéra ou des choses comme ça. En tout cas, c'est joué aussi, c'est avec scandé, des chorégraphies. Et en lisant, j'avais beaucoup de mal à me projeter avec ce type de façon, lire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je l'imaginais très mal chanter, avec une chorégraphie encore moins.
Donc, c'est vrai qu'on perd tout à fait. Voilà. C'est vraiment intéressant que tu le soulignes, parce que ils le disent sur un poème, je crois, où ils disent la façon dont ils le chanteraient ou ils le scanderaient, et qu'en effet, ce sont des chants au sens propre du mot chant. C'était destiné à être chanté lors de certaines, soit cérémonies, soit moments de la vie des citoyens, si on peut dire. Et, Et ça, on perd totalement en le lisant.
C'est ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'on perd une partie de l'essence même des textes.
C'est sûr.
Quand on chante quelque chose, ça, c'est comme les chants d'église. En soi, les chants d'église, c'est pas non plus méga intéressant quand tu lis des paroles. C'est, mais quand tu les chantes, on est tous, enfin, les gens sont transportés, etc. Peut-être qu'on perd aussi une partie de l'essence de ces textes parce qu'on les lit pas dans le bon contexte et de la bonne façon.
C'est sûr.
Moi, la dernière possibilité, c'est qu'on sacrifie Cerise au Quetzalcoatl et qu'on voit si ça nous permet de mieux apprécier ce bouquin. Avec de la drogue.
Ouais, je suis pas sûre que je respecte tous les critères pour être sacrifiée. Je n'en dirai pas plus.
Mais en tout cas, on fera ça après les prochaines critiques, car nous avons besoin de Cerise et hop, transition. Mais avant de passer aux prochaines critiques, donc transition ratée, Martin va nous lire un extrait. Oula.
C'est ce qu'on a rigolé, je pense.
Vas-y, bon, Martin. Ok. Ni Ual Assis Yenikan Yeni Yoyontin Zanik Zoshiye Le Huya.
Est-ce que tu peux lire la version française maintenant?
Non, mais là, attends, juste pardon. C'est pas sympa de me couper en plein milieu. C'est mon moment préféré en plus, ça c'est trop bien, écoutez bien. Ni Xochitlatla Panako Tlatli Kikpak. Voilà. J'espère que vous avez apprécié.
Oui, parce qu'on a oublié de le préciser, mais pour un poème, il y a la version originale, et c'est ce que Martin a choisi de lire, donc tu n'as pas de passage en français.
Bah non, mais je vous ai déjà dit que j'étais contre la traduction, alors moi je souhaite pas que... Non.
Eh bien, je vais le faire. Ici, je suis venu, je suis Yoyantin, et je n'ai que le désir ardent des fleurs. Je suis venu couper les fleurs sur la terre, ainsi je cueille les fleurs précieuses, les fleurs de l'amitié... Nous deux unis au prince, moi Netayokoyot, le roi, et toi Yoyontsin. Ce qui est la traduction littérale de ce que Martin a lu. Et on passe à la deuxième critique du podcast. Il s'agit de Confession d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. Et c'est un livre à succès qui a non seulement été au top des ventes, mais qui est le premier d'une longue série, puisqu'elle en a écrit 8 avec le même personnage.
8
Il y a également un film qui a été fait.
Et un film, oui, il a été adapté dans un film qui lui aussi, je pense, a eu un certain succès et qui a renforcé la popularité de ce livre. Alors, que raconte Confession d'une accro au shopping? C'est l'histoire de Rebecca Blomwood, une jeune journaliste dans un magasin de finance qui a un vice majeur dans la vie. Elle est accro au shopping, c'est écrit dans le titre. Le livre est construit assez classiquement, avec une structure en deux temps, la chute du personnage qui va s'enfoncer dans ses mensonges et dans son addiction, jusqu'à atteindre le fond, mais elle va s'en sortir. Alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce n'est pas de la grande littérature, mais, j'ai trouvé le livre beaucoup plus agréable à lire que je ne l'aurais cru. On est très loin des deux ou trois catastrophes qu'on a déjà critiquées dans le podcast et notamment dans le dernier épisode. Et en fait, c'est surtout la première partie qui m'a plu car je trouve que l'auteur a l'audace d'y aller à fond. L'héroïne est vraiment incapable de faire face à sa situation et choisit toujours la fuite et le mensonge, peu importe ce qui lui arrive. Et c'est cette attitude qui m'a intéressé. Et je trouve que Sophie Kinsella, l'autrice, est assez maligne dans la façon de décrire le déni. Et les ennuis s'enculent progressivement et la lâcheté du personnage est devient presque touchante. On est presque parfois dans son cerveau à se dire « Oui, je comprends la situation, c'est beaucoup plus agréable en effet de se plonger dans son lit et de pas lire le courrier qui s'empile devant la porte. » Et c'est ça qui m'a intéressé dans le livre. Évidemment, tout cela est gâché par la résolution catastrophique et l'inévitable happy end à la morale douteuse, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Mais du coup, je pense que j'ai été surpris par ce livre que j'ai lu d'une traite parce qu'il est absolument pas difficile à lire et que je pense que c'est fait pour ça, mais qui ne m'a pas totalement révolté, contrairement à ce que j'aurais pu croire, en l'entamant. Est-ce que vous aussi, ce livre vous a surpris?
Moi, j'ai eu tous les problèmes du monde pour le lire, hein. Franchement, hein, c'était très pénible. J'ai commencé par celui-là et j'ai mis un mois et demi à me motiver à en commencer un autre. Je suis pas vraiment dans la même logique que toi, moi personnellement, dans la structure. J'ai lu Twilight. On reste dans des choses extrêmement classiques. C'est extrêmement niais. Et en fait, moi, j'arrive pas à me transporter dans un personnage. par-delà la niaiserie. Moi, c'est ça qui me saute à la figure de bout en bout. Et comme tu l'as dit, la fin est absolument attendue, mais insupportable. Moi, personnellement, j'arrive absolument pas à me mettre dans les bottes de cette personne. Non seulement parce que c'est pas moi, mais au-delà de ça, parce que oui, moi je trouve que c'est un désastre. Mais bon, on peut avoir des niveaux de lecture différents. Personnellement, j'ai vécu un très très mauvais moment. Autant c'était rigolo les poèmes, hein. Autant on parlait de panthère et tout. Autant là, non, j'ai pas trouvé grand-chose à rattraper là-dessus. À part peut-être les deux premières pages où c'était rigolo parce que c'était des lettres. Donc je me dis c'est
marrant. Les premières lettres.
Ah, mais sinon c'était nul.
D'ailleurs, les lettres, j'ai vraiment absolument pas compris leur intérêt. C'est des petites blagues, quoi, mais...
Ouais, non, mais...
Non, c'est pour rajouter la pression, pour montrer les courriers des banques et montrer qu'ils continuent à avoir des relances.
Oui, et du coup, Cerise.
Moi, j'avais déjà lu d'autres livres de cet auteur avant.
D'accord. Mais de cette série-là aussi?
Non, pas du tout. Justement, j'ai tout fait pour éviter, peut-être pas, mais moi, je sais que mes sœurs, avaient lu ce livre et ont beaucoup apprécié pour le coup cette série et cette saga. Elles ont lu tous les livres jusqu'au bout. Moi, j'avais déjà vu le film par contre avant de lire le bouquin, donc je connaissais l'histoire et compagnie. Et donc, comme je disais, j'avais déjà lu des livres de cet auteur qui restent des livres très faciles d'accès, comme vous disiez, et qui sont c'est le genre de livre que tu lis quand t'as juste envie de pas réfléchir, de lire un bouquin qui est un peu fleur bleue et qui a des bons sentiments.
Est-ce que c'est un livre de Noël ?
Ah non. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai tourné un peu autour avant de le lire et ce podcast m'a permis de sauter le pas et de m'y mettre. C'est vrai qu'on retrouve la patte de Sophie Kinsella. Après, j'ai trouvé quand même que c'était un livre un peu lourd par certains moments. J'ai trouvé le hyper intéressant de la part de l'auteur d'aller jusqu'au bout du personnage avec cette histoire de déni, qu'elle s'enfonce dans son problème, et ça, c'est vraiment la problématique du livre, donc c'est bien présent pendant toutes les pages. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y a un moment c'était trop et que il fallait, moi à un moment le personnage m'a agacé en fait. C'est au bout d'un moment, bouge-toi, tu sais ce qu'il en est, tout le monde te le dit, ou bon, d'un moment, affronte tes problèmes, et voilà. Après, c'est peut-être ma personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi, ma sœur peut être un peu comme ça, elle a un peu un problème avec le shopping, donc ça m'a permis de la comprendre aussi un petit peu, donc c'était intéressant pour ça.
C'est marrant ça.
Donc, oui, ça m'a vraiment permis de comprendre un peu la vision de ma sœur pour le coup. Donc, ça a été intéressant pour ça, mais voilà. En gros, par rapport aux autres livres de Kinsella que j'ai pu lire, c'est pas le meilleur. C'est sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi aussi, il m'a un peu agacée. Après, j'ai quand même pris du plaisir à lire jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé que ça mettait un peu trop de temps, en fait, à se résoudre.
Mais c'est marrant ce que tu dis sur le côté « elle va trop loin ». Moi, je pense que c'est vraiment le seul truc qui m'a accroché au livre, c'était de voir jusqu'où elle allait aller.
Il y a un moment, c'est too much, quoi.
C'est too much. De toute façon, on croit absolument en rien.
Je trouve pas ça crédible.
Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont comme ça, par contre.
Oui, mais je pense qu'on en connaît tous, et je pense justement que... Mais pas par rapport au shopping. Le shopping, c'est un peu un prétexte, même si c'est au cœur de toutes les
des gens avec ce niveau d'addiction et de déni, j'en connais pas.
Oui, moi non plus. Moi, je parlais de ma sœur tout à l'heure, elle est pas à ce point-là, mais...
Non, mais de mécanisme. On a tous vu de quelqu'un qui préfère faire trois pas en arrière plutôt que de sauter le pas et de se mentir à lui-même et de trouver des arguments toujours plus compliqués que finalement résoudre le problème qu'il a en face de lui. Et je trouvais que c'était cette dynamique qui fait l'intérêt du livre, c'était de creuser ce personnage qui en effet n'a absolument aucune autre consistance que ce trait de caractère, et que en allant jusqu'au bout de cette démarche, elle arrivait à quelque chose de moins superficiel que ce que le livre aurait été sans ça.
Sinon, ça aurait été
une simple, en effet, comédie romantique qu'on a lu et vu surtout.
Tu penses que c'est autre chose que fortuit qu'on puisse retirer quelque chose de ce bouquin?
Oui, je pense. Je pense que c'était ce qu'elle voulait faire. Je pense que le sujet de ce livre, c'est ça. C'est comment certaines personnes peuvent Enfin, c'est même toutes les péripéties de la première partie tournent autour de ça, jusqu'à une fuite même physique chez ses parents. Il y a une interrogation et même, on pourrait dire, un portrait de personnage ou de caractère dans ce livre qui m'a intéressé. On se croirait presque chez les portraits de La Bruyère, c'est-à-dire que c'est un personnage, je vais peut-être un peu loin, mais c'est quand même un personnage typique qui repose sur un unique caractère, et elle se permet, grâce à ce personnage caricatural, de brosser et de décrire un caractère qu'on retrouve chez des gens et même chez nous-mêmes toujours à certains moments. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce dessin de la fuite et de la peur d'affronter les conséquences. Et là, elle va jusqu'au bout.
Dernière question pour essayer de me convaincre. Tu sais ce que ça raconte, les 7 d'après ? Parce que là, moi, franchement, ce que je vois, c'est, étant donné la fin du bouquin, je vois encore une fois pas ce qui... Enfin, comment on peut dire ? De mécanisme salvateur de ce bouquin. À la fin, tout retombe à plat. En plus, je suis sûr qu'elle a rien appris, quoi. Enfin, on va pas me faire croire que il y a la moindre... Tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas la moindre morale... C'est un scandale, ce bouquin, c'est-à-dire...
J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que du coup, oui, j'ai parlé beaucoup de mon intérêt pour la première partie. Là, c'est catastrophique, cette fin, parce que, pour faire bref, je suis peut-être allé vite dans ma description du livre, mais donc elle a un problème avec le shopping et le fait de dépenser, donc elle passe une grande partie du livre à essayer d'apprendre à gérer son argent, à ne plus le dépenser à tort et à travers, comment est-ce que elle peut éviter parce que chaque achat de shopping, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal fait dans le livre, c'est que on comprend vite que c'est pas l'achat en lui-même qui l'intéresse, mais que c'est plutôt à chaque fois, dès qu'il lui arrive un malheur, c'est le sentiment rien que de rentrer dans un magasin qui déclenche une sorte d'euphorie chez elle qui lui permet d'oublier les tracas de sa vie, et qu'elle est donc dans un cercle perpétuel d'essayer comme un accro à la drogue, et c'est ça qui est intéressant. Donc t'as toute une partie du livre qui est sur ça, qui décrit ce problème d'addiction à l'argent, à la consommation. On a presque l'impression qu'il va y avoir une critique de la surconsommation, qui sait, voire du système capitaliste, pourquoi pas. Et à la fin, la résolution de tout ça, c'est qu'elle trouve le moyen de se faire plein de fric et d'avoir plein d'argent, et d'avoir un homme qui va lui permettre aussi d'avoir plein d'argent, et donc tout va bien, puisque finalement elle a absolument pas affronté son addiction ni quoi que ce soit, on n'est même pas guéri, on n'en est pas sûr, et elle a juste plein de fric à dépenser. Et ça, c'est quand même incroyable de finir ce livre sur ça, je trouve.
Ah ouais, ça, pour moi, ça trahit les réelles intentions de l'auteur, oui. Tout simplement, l'autrice. Ah. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a rien à en retirer.
Et d'ailleurs, je parle sous contrôle, mais pour moi, les 7 autres livres... C'est globalement, elle retombe dedans, et elle repart, et elle retombe, et après, elle continue sa vie avec le mariage, les enfants, etc. Mais pour moi, c'est juste ça, il me semble, les 7. Après, je ne les ai pas lus. Comme je vous disais, j'étais un peu tournée autour du pot
sur Martin, cette série. Mais Martin nous fera un compte rendu, je pense.
Je n'en doute pas.
Avec plaisir.
Des 7 prochains tomes. Mais donc oui, c'est quand même dommage de... Mais...
Non, je pense que le mot dommage, ce serait s'il y avait... autre chose que ta volonté de trouver quelque chose de positif dans ce bouquin. Je pense que ça, encore une fois, c'est juste une suite tout à fait logique. Moi, ça m'a pas du tout surpris, parce que vu la qualité de l'écrit, le ton et tout le reste, la fin est tout à fait logique. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est Twilight, encore une fois.
Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que ça allait bien finir, mais je pensais que ça allait bien finir avec une certaine morale de il faut savoir économiser son argent et tout ça, qui aurait été déjà pas terrible, mais qui aurait au moins un peu de sens. Là.
Mais non, ça a été écrit sur 3 SMS dans l'application Bloc-Notes pendant qu'elle était dans le métro. On le sait pertinemment. Enfin, c'est 50 Shades of Grey. C'est du même acabit. On le sait.
Ouais, enfin, je tiens à préciser que 50 Shades of Grey, c'est encore pire que ça, hein. Pour le coup, ça se lit même pas.
Bah, alors, je veux pas entendre parler.
Moi, je trouve qu'il y a une certaine, je sens ton regard courroucé sur moi, mais la plume n'est pas si affreuse que ça. Je trouve qu'elle a une certaine, il y a des blagues qui marchent, il y a une certaine, parfois, l'ironie, parce que ça fonctionne beaucoup sur l'ironie, c'est, le personnage est perpétuellement moqué dans ce qu'il fait, et tout ce qu'elle la façon dont elle arrive à se mentir à elle-même, l'auteur le déjoue systématiquement dans son procédé narratif, où par exemple elle va penser quelque chose et elle va faire l'inverse la phrase d'après avec un petit contraste, et je trouve que c'est assez efficace dans la façon dont c'est écrit et rythmé par rapport à ça. Et du coup je trouve la plume qui elle est pas rebutante ni trop lourde, contrairement à certains livres dont je parlais tout à l'heure, et ce qui fait que la lecture est finalement agréable.
Oui, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, un livre qui se lit facilement, qui est vraiment un livre qu'on lit quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a envie de lire quelque chose de facile, d'accessible, de sympa, avec de bons sentiments, avec un mini-challenge qui se résout en happy end à la fin. Et voilà, c'est le type typique de livre que, voilà, souvent... On dirait que c'est plutôt des livres de filles, parce que voilà, c'est, y a plein de
bons sentiments. Mais faut plus le dire,
ça. Bah écoutez,
les
voilà.
Les filles peuvent lire des bons livres aussi.
Mais je dis pas le contraire. La preuve en est ce soir, toutes les auditrices qui nous écoutent. Mais voilà, c'est juste que peut-être qu'on a plus tendance, je fais une grosse généralisation, hein, mais peut-être qu'on a plus tendance que vous à lire des livres un peu faciles et accessibles avec plein de bons sentiments qui dégoulinent de partout parce qu'on a envie d'écouter des histoires d'amour.
Parce qu'ils sont marketés voilà. Pour ça aussi.
Enfin, exactement.
Rien que la couverture et la façon
dont... Et encore,
c'est pas la pire
que toi.
C'est que oui, c'est clairement fait pour plaire au public féminin. En l'enfermant dans ses propres codes, et ça, c'est dommage. Mmh. Mais donc, voilà, ce qu'on pouvait dire sur, je pense, au moment que vous ayez d'autres choses à rajouter, confession de nécro-shopping.
Non, bah non, est-ce que vous avez envie de passer un bon moment et pas vous prendre la tête.
Et je vais vous lire un extrait.
Comprenez-moi bien, j'aime les musées, vraiment. Et l'art coréen me passionne. Seulement, les sols sont durs, je porte des bottes très serrées, il fait une chaleur torride, et la veste que j'ai enlevée glisse toutes les 5 minutes de mon bras. Chose étrange, j'entends à intervalles réguliers le son d'une caisse enregistreuse. Ce doit être mon imagination. Assise là, le regard dans le vide, je me demande comment rassembler mon énergie pour me remettre debout, quand le groupe de touristes japonais pénètre dans la galerie. Je me sens obligé de me lever et de m'intéresser à quelque chose. Je contemple vaguement une toile, puis descends un couloir au mur recouvert de vieux carreaux indiens. Cela me rappelle que l'on devrait se procurer le catalogue Firehearth et recarreler la salle de bain lorsque j'aperçois une scène déroutante à travers une grille métallique. Interloqué, je m'arrête. Est-ce un rêve? Un mirage? Je distingue une caisse, des gens faisant la queue et une vitrine avec des étiquettes. Oh mon Dieu, j'avais raison, c'est une boutique. Il y a une boutique, là, juste devant moi. Tout à coup, mes pieds retrouvent du tonus, mon énergie est revenue comme par miracle. En suivant le son du tiroir-caisse, je tourne le coin et débouche sur l'entrée de la boutique. Sur le seuil, je marque une pause. « Surtout, ne te berce pas trop d'illusions, me dis-je. Et ne te sois pas déçu, sinon que des marque-pages et des torchons. Mais ce n'est absolument pas le cas. Bon sang, c'est fantastique. Pourquoi cet endroit n'est-il pas plus connu? Il y a tout un rayon de bijoux superbes, des tas de livres d'art passionnants, des poteries incroyables, des cartes de vœux. Et... ah, je suis censé ne rien dépenser aujourd'hui. C'est horrible. À quoi ça sert de découvrir une nouvelle boutique si on ne peut rien y acheter? Autour de moi, tout le monde fait des emplettes, tout le monde s'amuse. Abattu, je rôde près d'un étalage de tasses, observant une Australienne prenant une pile de livres sur la sculpture. Elle bavarde avec le vendeur et soudain, je l'entends dire quelque chose au sujet de Noël. Et là, j'ai un éclair de pur génie. Les courses de Noël. Je peux toutes les effectuer ici. Je sais qu'en mars, c'est un peu tôt, mais pourquoi ne pas être prévoyante? Et quand les fêtes arriveront, je n'aurai pas affronté les foules monstrueuses. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt? De plus, je n'en ferai aucune règle, puisque de toute façon, je devrais bien acheter ces cadeaux à un moment ou un autre. Je me contente d'avancer un peu le processus. Mon raisonnement tient debout. C'est ainsi qu'une heure plus tard, je sors radieuse avec deux gros sacs. J'ai pris un album de gravure de William Morris, un puzzle en bois d'autrefois, un livre de photos de mode et une superbe théière en céramique. J'adore le shopping de Noël. J'ignore ce que je vais offrir et à qui, mais l'important est d'avoir sélectionné des articles intemporels et exceptionnels qui mettront en valeur n'importe quel intérieur. C'est du moins le cas de la théière, comme l'indique la notice. Je pense m'en être bien sorti.
Et on passe à la dernière critique du podcast. Comme d'habitude, c'est un roman graphique, et cette fois-ci, un manga que Cerise va nous présenter.
Alors du coup, c'est Quartier lointain de Jiro Taniguchi, qui est du coup un mangaka japonais. Et a priori, cette œuvre est sortie en 1998 pour la première fois. Pour vous résumer en deux mots, ce manga, c'est l'histoire d'un monsieur de 48 ans qui est un peu fatigué de sa vie, qui est un peu fatigué de ses choix de vie, qui n'est pas très positif en fait par rapport à sa position actuelle, et par un concours de circonstances incongrues, par un peu de magie on va dire, il se retrouve transporté des années en arrière quand il avait 14 ans.
C'est ça, 14 ans.
14 ans, et donc du coup il revit son passé. Et donc on voit comment ça se passe, ses réflexions avec son recul d'adulte dans sa vie d'enfant.
Et est-ce que ça t'a plu ?
Alors oui, ça m'a plu. Moi, ça m'a un petit peu fait penser, je ne sais pas si vous voyez le film 30 ans sinon rien.
Non.
30 ans sinon rien, en fait, c'est à l'inverse, une jeune fille de 15 ans qui veut avoir 30 ans et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une peau de 30 ans, mais avec un esprit de 15 ans. Pour moi, c'était un peu ça, mais à l'envers. Et ce que j'ai surtout trouvé très intéressant dans ce manga, c'est finalement que c'est quelqu'un de 48 ans qui revit sa vie de jeune avec un regard de 48 ans, des pensées de personnes de 48 ans, et finalement qui réapprend à apprécier ce qu'il avait et qui se rend compte de la chance qu'il avait à l'époque. Et qui finalement prend avec beaucoup plus de plaisir tous les instants et qui réapprend à les savourer. Mmh. Et je l'ai pas précisé dans mon résumé tout à l'heure, mais en fait, il a une problématique dans son enfance. À un moment, son père les quitte du jour au lendemain. Ils ont plus du tout de nouvelles de lui. Et finalement, au début, il va prendre toute cette aventure pour un nouveau renouveau pour lui, ce qui est bien. Et après, il s'est dit, tiens, si mon père, il va partir à nouveau. Et là, il commence à se dire, comment je peux faire pour changer, en fait, les événements. Et finalement, on revient sur une thématique qui est transgénérationnelle aussi et qui est qui continue selon toutes les époques, je pense, à toujours se dire, et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se passerait ?
Est-ce que j'aurais pu changer le cours de ma vie ?
Exactement.
Martin, est-ce que ça t'a touché ?
Ouais, c'était vraiment magnifique. Très très belle lecture. Donc déjà, c'est vrai que les dessins sont très beaux. Beaucoup des thématiques abordées peuvent avoir une certaine forme de résonance, mais aussi sont importantes et sont traitées à la fois finement sans nécessairement y apporter une réponse. On peut penser typiquement au départ du père, qui est quand même la thématique centrale et qui va motiver beaucoup des actions et des réflexions du personnage. Ça, c'est quand même assez, même pour quelqu'un, moi j'ai 29 ans aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez prégnant, cette idée est-ce que on n'a pas fait des sacrifices dans sa vie auxquels on s'est tenu et qu'on n'a pas gâché finalement une partie de sa vie. Ça, c'est le point de vue du père. Et le point de vue du fils, c'est pourquoi c'est arrivé du jour au lendemain, essayer d'agir pour le changer, et donc avoir son propre point de vue de personne adulte dans le corps de l'enfant qui a vu son père partir. C'était beau, c'est émouvant et aussi triste parce que comme je le disais, il y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est plus un regard sur la question. C'est aussi un regard sur les premiers amours, l'école, la performance à l'école, la vie de famille, ce qu'est une mère aussi dans un couple et dans un couple japonais. Il y a beaucoup de notions de sacrifice, je trouve, dans cet ouvrage, et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, le plus pertinent aussi, très personnellement. Et encore une fois, je pense que ce qui est le plus beau et le plus magistral dans ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il le fait finement. Il n'y a pas de jugement. C'est son regard et sans apporter de conclusion, mais plus pour partager une expérience. Et c'était vraiment un très très bel ouvrage et finalement qui finit pas mal, mais dont on pourrait très bien aussi tirer des conclusions pas forcément très joyeuses. C'est plus lucide qu'autre chose.
C'est, oui, c'est lucide et mélancolique.
Tout à fait.
Forcément, la mélancolie liée à, au temps qui passe, puisque c'est la thématique, hein, c'est le voyageur du temps, comme il s'appelle dans le récit. Le fait de retourner en arrière, c'est à la fois, comme tu dis, la réflexion sur ce temps qu'on n'arrivera jamais à rattraper, qui est perdu pour toujours, et pourquoi il est perdu, est-ce que le côté aussi destiné, fatalisme de ce qui nous arrive, ou est-ce que nos choix ont des vraies conséquences, quelle liberté on a aussi dans les différentes actions, dans notre rapport avec les autres, est-ce qu'on arrive à comprendre les autres, enfin, toutes ces thématiques que vous avez fortement, justement soulignées. Et en effet, c'est un livre qui brasse beaucoup de belles thématiques et qui le fait assez bien. Vous parliez des dessins, je vais peut-être insister un peu plus là-dessus. Moi, du coup, ils sont extrêmement détaillés. C'est ça qui est assez frappant, très réaliste. Hein. C'est pas de cartoon. C'est sobre et c'est finement ciselé, avec quelques aussi scènes rapides mais très belles de nature, avec soit des papillons, soit la mer, soit les éléments. C'est toujours en fond, c'est jamais trop insistant, mais c'est toujours d'une précision et d'une finesse assez forte, et ça colle parfaitement avec les personnages. J'ai quand même un petit bémol, moi, c'est que j'ai pas été si emporté que ça, en fait, par le livre. Je suis resté très théorique et sur ce qui se passait, mais j'ai pas été ému plus que ça, et je pense que c'est à la fois parce que j'ai eu un peu de mal avec le procédé de base, qui est celui du retour en enfance, qui est un procédé qu'on a vu énormément de fois depuis, et enfin c'est quand même un topos du cinéma et de la littérature, l'adulte dans le regard de l'enfant ou l'enfant dans le regard de l'adulte, et le fait que ce soit absolument pas expliqué, évidemment, fait que parfois je l'ai trouvé un peu artificiel quand le personnage en parlait sans cesse. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, c'est incroyable. Bon, ça, c'est des passages qui me touchent pas. Et peut-être que je trouve qu'il, justement, le livre parle peut-être un peu trop à mon goût, et j'aurais préféré qu'il laisse un peu plus s'installer l'ambiance et ses personnages, plutôt que de faire énormément parler le personnage principal face à ses interrogations, ses choix, ses doutes. Je trouve qu'il, le fait de sans cesse lire son étonnement sur ce qui va arriver, ah, mon père va disparaître, ah, c'est tel jour, ah, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, ça m'a sorti un peu de l'onirisme qu'il y a plus dans les traits, les dessins, et c'est ce qui m'a laissé un peu plus froid, mais attention, hein, ça reste une très belle œuvre, c'était juste pour insister sur ce qui m'avait un peu plus gêné.
Moi, pour le coup, cet aspect justement de la date qui arrive inexorablement, et justement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de résolution à cette date, le fait que constamment il se pose la question mais qu'il n'y ait pas de résolution, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi.
Oui.
C'est justement, peut-être que j'aurais eu la même réflexion que toi si à la fin c'est par un concours de circonstances, Magie, il change sa vie et il revient 30 ans, 35 ans plus tard, et son père est toujours là ou quelque chose comme ça. Ça aurait peut-être été plus pénible à regarder, à lire. Moi, j'ai trouvé justement que... puis j'ai pas trouvé ça gratuit, en fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que ces réflexions sont jamais gratuites. Elles sont toujours justifiées, à part peut-être, c'est vrai, la réflexion, ah, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé, bon, ça, à la limite, j'ai pas non plus trop l'impression que ce soit envahissant. C'est une dizaine de pages tout au plus. Globalement, j'ai trouvé que ces réflexions étaient pertinentes. Enfin, encore une fois, je comprends que ça t'ait pas nécessairement plus touché que ça. Moi il m'a vraiment parlé, ce manga et son questionnement m'ont vraiment parlé.
Désolée, j'étais en train de réfléchir. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en effet, j'ai pas tellement parlé des graphismes, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très fins, très délicats, et en effet, toute l'œuvre, on a... en fait, c'est une œuvre mélancolique, comme tu disais. C'est exactement ça, le terme. C'est que la mélancolie nous file pendant toute l'œuvre. Et également, pour moi, c'est quand même une œuvre qui est assez contemplative. dans la façon dont elle a été dessinée et écrite. C'est-à-dire que on a quand même plus de 400 pages hein, de mémoire. On a 406 pages de dessins pour nous parler de ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça ne les mérite pas, parce que l'histoire est vraiment bien amenée et qu'il y a quand même un bon fil conducteur et ça se lit très facilement.
Oui, ça se lit vite. Hein.
Oui, enfin, oui, ça se lit
vite et bien.
C'est agréable à lire. Il y a pas de, on se dit pas quand est-ce que ça finit quoi. Mais à côté de ça, il prend vraiment son temps. Et comme tu disais, en effet, même les paysages, etc., ça se ressent, en fait. On a presque l'impression d'être... finalement, là, je suis en train de me dire que ce côté très contemplatif, c'est peut-être aussi pour nous mettre dans l'état d'esprit du personnage, à se dire, tiens, je suis revenue, je profite de chaque instant. Et finalement, on peut peut-être se dire que ça fait un parallèle avec je profite de l'instant avec le personnage, en prenant un peu de temps, et on va prendre un peu plus de temps que ce qu'il faudrait peut-être pour raconter cette histoire, juste pour être vraiment plongé dedans jusqu'au bout et apprécier à sa juste valeur les graphismes et l'histoire.
Et c'est très sensoriel aussi, c'est le soleil sur la peau quand ils sont allongés sur la plage, c'est l'herbe dans laquelle ils sont aussi allongés à deux dans des moments romantiques. Il y a vraiment un côté, je retrouve à la fois l'enfance et je retrouve aussi un côté plus naturel, un retour à la nature, aux éléments qu'il avait oubliés en tant qu'adulte. Ça fait partie des thématiques du livre. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Quartier Lointain ?
Non. Après, dans la préface, il y a une petite préface dans la version que j'avais. Et la personne expliquait que pour lui...
Ah oui, Jaco Van Dormel, réalisateur belge.
Et il disait que pour lui, l'auteur, donc Jiro Taniguchi, avait vraiment fait un travail de cinéaste presque par rapport au plan... la façon dont il dessinait ses plans dans chaque bulle et là je trouve que c'est assez vrai finalement, et je pense que ça rejoint plutôt ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est presque un travail de réalisateur quoi, dans la façon dont il a tourné.
D'ailleurs, le livre a été adapté au cinéma par la Belgique, si vous voulez voir une adaptation de Quartier Lointain
avec des acteurs japonais.
Non. Des acteurs belges, je crois, mais ça se passe pas en Belgique.
Ça se passe au Japon.
alors, je veux pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas dans une, je sais plus, non, à vérifier. Mais okay. Pas en Belgique et ni au Japon.
Donc, ok.
Dans un pays tiers. Et avec une présence, je crois, un passage de Jiro Taniguchi à un moment dans le film, en caméo.
Ça.
Est-ce que vous le conseillez?
Oui, moi je pense que je peux le conseiller. Je pense que c'est un livre qu'on peut conseiller à n'importe quelle personne et surtout à n'importe quel âge, pour le coup. Je pense que c'est une thématique qui peut interpeller tout le monde. C'est un livre sympathique à lire. On se détend bien.
Martin ?
Ouais, moi qui suis pas nécessairement manga, je l'ai trouvé... Enfin, je pense que j'aurais... Avec le recul, j'aurais beaucoup regretté de pas le lire. Et... particulièrement intéressant sur la thématique du père absent, et je pense que ça mérite vraiment d'être lu et d'être ressenti au moins dans cette thématique là si ce n'est pas les autres.
Oui, pareil, je le conseille, c'est quand même une très belle œuvre et avec beaucoup de thématiques intéressantes, donc on peut dire que c'est un conseil collectif. Quartier Lointain de Jiro Taniguchi, un manga qui est quand même un gros succès en France, hein. Je pense que il est toujours dans toutes les librairies et on en entend souvent parler, donc ce n'est pas un conseil isolé. Et pour nous donner un aperçu de l'univers de Quartier Lointain, Cerise va nous lire un extrait.
Pour moi, c'est juste une phrase qui résume bien l'essence du bouquin. Je revivais mes 14 ans et je découvrais à quel point il avait été précieux. Je savourais ses instants de bonheur.
Et nous en avons fini avec les critiques, on va pouvoir passer à l'avant-dernière rubrique du podcast, les recommandations.
Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. aie confiance, crois dans moi, que je puisse veiller sur toi.
La rubrique recommandation, c'est le moment où je donne toute liberté à mes chroniqueurs pour recommander ce qu'ils veulent dans n'importe quel domaine, artistique ou non. Et on va voir s'ils ont fait preuve d'imagination. Martin, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Eh bien, je pourrais vous recommander l'album de Sébastien, mais je vais plutôt vous recommander un jeu vidéo qui se déroule dans l'univers de The Binding of Isaac d'Edmund Macmillan. Donc, c'est le dernier dernier jeu vidéo en date d'Edmund Macmillan. Qui est en gros un Candy Crush avec du caca, du pipi, des os, des dents et de la morve.
Très bien.
Il est toujours dans les mêmes thématiques, mais très bien pensé.
Excuse-moi de t'interrompre, du coup c'est sur mobile aussi comme Candy Crush
ou c'est pour l'instant c'est sur PC. La question est bonne parce qu'on me l'a déjà posée et je pense que ça pourrait faire son entrée sur mobile, ce serait jouable. Mais aujourd'hui, non, c'est que sur PC. Évidemment, le thème et l'ambiance va rebuter la majorité des personnes qui arrivent sur l'univers, ce qui est logique. Ça a été mon cas au début, mais il y a du génie derrière. Et quand je dis il y a du génie, je pèse mes mots. C'est vraiment quelqu'un de particulièrement doué à la fois graphiquement et dans ses mécaniques de jeu, et là encore c'est quelque chose de totalement différent qu'il a fait. C'est la personne qui a fait Super Meat Boy aussi, pour les personnes qui connaissent. On a encore une belle réussite, c'est différent mais c'est encore très très bien réussi.
Très bien. Cerise, quelle est ta recommandation ?
Alors moi, pour ma première fois, je vais pas être forcément très originale au niveau du thème, je vais rester sur un livre.
Très bien, on a mis le livre ici.
J'espère. Moi, je vous recommande la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui est une auteure française, pour information. Donc, soyons un peu franchement.
Cocorico.
Voilà, exactement. Dont le premier tome s'appelle Les fiancées de l'hiver. En fait, c'est un livre un petit peu fantastique qui se passe un peu dans un hiver après-guerre, mais on parle vraiment pas de la thématique de la guerre spécifiquement. C'est pas l'essence centrale. Et qui, en fait, a un monde qui flotte dans l'air. Où il y a plein de comment on appelle ça, désolée je perds mes mots, plein de familles, des familles différentes, et chaque famille en fait a un don spécifique, un don forcément qui est un peu magique. Et en l'occurrence, on s'intéresse au personnage principal, qui est une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui, elle, peut lire les objets, peut lire les passés des objets, qui les a touchés et compagnie, et qui se retrouve fiancée un peu de force quelqu'un d'un autre clan, d'une autre famille, qui lui est un peu plus agressif, qui en plus est dans le nord, donc du coup elle va avoir froid quoi, parce qu'elle va devoir aller là-bas et compagnie. Et donc en fait c'est un peu l'histoire de cette jeune fille qui est très timide, et qui va devoir qui va se retrouver déracinée dans un autre clan avec des personnes qui ont une totale autre vision du monde, et voilà, il y a toute une histoire qui se développe autour de ça. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous gâcher la surprise.
Très bien. Et moi, je vais vous recommander une série qui a un certain succès en France, donc c'est une recommandation qui, pour ceux qui ne seraient pas au courant peut-être, c'est la série 10%, série française diffusée sur France 2, et qui suit les péripéties dans une agence d'agents, de stars, avec comme astuce assez originale d'avoir pour chaque épisode une star qui joue son propre rôle. Généralement des acteurs français, et souvent des acteurs assez renommés et reconnus, donc c'est souvent surprenant de les voir se moquer d'eux-mêmes la plupart du temps. C'est une série assez drôle qui joue beaucoup justement sur la dérision des stars sur leur propre milieu. Ils sont tous un peu soit capricieux, soit très enfantins dans leur façon de se comporter. Et ça fonctionne très bien. Les personnages des agents sont tous assez bien campés et on suit avec plaisir leurs aventures et le soin qu'ils ont à essayer de se tirer dans les pattes tout en essayant de garder leurs privilèges avec les stars qu'ils chouchoutent. Et c'est une série à la fois drôle, bien rythmée. Elle a 4 saisons et chaque saison est composée de 6 épisodes, je crois. Donc ça se regarde finalement assez rapidement. Et donc, si vous n'avez pas encore eu la chance de regarder ou si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. C'en est fini des recommandations, on va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais pour ça, je vais accueillir les chroniqueurs du mois prochain. Je dis donc au revoir à Cerise et Martin.
Au revoir.
Au revoir.
Et je vous dis à tout de suite pour le tirage au sort.
Bon. Et nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast. Il s'agit du tirage au sort. Et donc, pour ce tirage des livres que nous lirons le mois prochain, j'accueille les chroniqueurs du mois prochain. Bonjour Anne-Alexandra, tu es une fidèle.
Bonjour Mehdi.
Et bonjour à la nouvelle, Cathali.
Salut.
Alors, je fais le premier tirage. Premier tirage, c'est un livre franco-afghan de 154 pages. Et il s'agit de Singhé Sabour, Pierre de Patience, par Atik Raimi, sorti en 2008. Anne-Alexandra, est-ce que tu mets un veto ?
Non, je ne mets pas de veto.
Cathali ?
Non, pas du tout.
Et moi non plus, donc nous le sélectionnerons. Deuxième tirage, il s'agit d'un livre français de 768 pages, paru en 2002, par Jacques Attali, « Les Juifs, le monde et l'argent, histoire économique du peuple juif ».
Alors là, je mets mon veto.
Veto instantané.
Non mais Cathali, tu le liras toute seule. Moi, je me suis déjà tapé un essai la dernière fois que je suis venue, je ne vais pas m'en retaper un.
Oh là là, tant pis, je ne lirai pas.
Il y a des accords dans les chroniqueurs, mais le veto, c'est la loi. Donc Anne-Alexandra a posé son veto. Livre suivant. On part aux États-Unis, enfin, des États-Unis un peu russes, puisqu'il s'agit de Vladimir Nabokov, Ada Oulharder, un roman de 490 pages paru en 1969. Anne-Alexandra, tu n'as plus de veto, donc Cathali.
Est-ce que tu peux me répéter le titre, Steph ?
Ada Oulharder.
Ok. Bon, bah, pourquoi pas.
Je ne mets pas de veto non plus, donc nous avons nos deux romans. La BD maintenant. Une BD française de 48 pages, parue en 2004, La ligne de front de Manu Larcenet.
Ok.
C'est va pour
moi,
toi.
Moi, j'ai pas la parole.
Toi, tu ne peux plus parler. et tu parles quand même. Et je ne mets pas de veto. Donc, nous avons nos trois œuvres. Il s'agit de Singhé Sabour, Pierre de Patience, Ada Oulharder et La ligne de front. À dans un mois et bonne lecture.
Bonne lecture.
Salut.